La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bon matin.
Hey, Sylvain, avant de commencer, oui. Je viens de voir un article qui est intéressant.
Ah oui, donc?
T'as des employés de Pernod Ricard qui accusent leur employeur de les avoir incités à boire sur la job. Parce que ce sont des représentants qui buvaient avec des clients. Ouais. Et là, ils disent, ils nous ont forcés à boire pendant des années trop de consommation par jour pour les relations clients. Alors, tu vois, plusieurs personnes veulent boire sur la job, mais il y a d'autres personnes qui sont forcées de boire trop sur la job. C'est pas
mais
mieux.
La nouvelle suivante, ça va être qu'un sommelier se plaint qu'il est obligé de boire sur la job.
Parce non, mais Pernod Ricard, c'est cracher son vin.
Non, mais Pernod Ricard, c'est une compagnie de boissons.
Ah oui, c'est une des plus grandes au monde.
Ah ben, ça se peut que tu boives ça à job.
Oui, mais normalement, parce que picoler avec un client, c'est une chose. Tester des produits avec un client, c'est autre chose.
Ah, je comprends. Il y a une nuance.
Oui.
Ouais, parce que là...
C'est pas cracher ton vin à SAQ quand t'es sommelier, tu sais.
Oui.
Mais je connais pas grand monde qui ont craché un Pontet Canet dans leur vie, mais bon.
Ouais, ça dépend du type de vin, sûrement. Les indices boursiers sont à des niveaux records. Ça fait peur à du monde, ça. Il y en a qui sont sûrs que ça va baisser, là.
Ah, mais là, Sylvain, écoute, là, il y a eu beaucoup de rachats d'actions dans les dernières années. Hein? Depuis l'année 2010, là, on dit qu'à peu près 22 % de la capitalisation boursière a été rachetée. C'est-à-dire que les entreprises rachètent des actions en bourse et les éliminent. Comme ça, ça donne moins de dilution pour les actionnaires actuels et ils jugent que c'est une bonne stratégie. Et on prévoit encore ce genre de choses-là. Donc, ça protège une certaine valeur boursière. Mais il y en demeure pour moi que là, le TSX, la tâche statique, est à 17 000 points. Ça, là, juste pour vous donner une idée, là, après la crise financière, le TSX était à 8 000 points. Donc, si vous regardez la courbe du TSX depuis le début des temps, c'est pas pire. T'sais, la croissance là, du TSX est une courbe relativement, si vous mettez une tangente dessus, c'est quand même... Ça suit une certaine logique mathématique de croissance. Mais quand on va aux États-Unis et qu'on touche au S&P 500, donc les plus grandes entreprises américaines, la plus grande capitalisation boursière américaine, ben depuis l'année, la fin de la crise financière, ou le creux de la crise financière plutôt, on a multiplié l'indice par, attache statique, plus de 4. Donc, tu as mis de l'argent après la crise financière, tu as multiplié tout ce que tu avais par 4. Puis si tu vas sur le Nasdaq, c'est encore pire, parce que là, les titres technologiques, wouh! Tu sais,
non, mais là, quand... ça veut dire que normalement, dans nos portefeuilles, on aurait dû faire x4.
Ben, si tu avais tout investi dans les titres de technologie et autres, ou bien les titres de S&P 500 aux États-Unis, parce que là, le monde souvent investisse un 20, 30, 40 aux États-Unis, mais il reste au Canada une partie. Puis tu peux être chanceux dans certains indices ou dans certains portefeuilles. Je te donne un exemple. Le Nasdaq, quand on regarde la bulle immobilière là, du début des années 2000, on voit un petit soubresaut. Mais si vous regardez la courbe du Nasdaq aujourd'hui, le soubresaut d'aujourd'hui, là, il est comme 2 à 3 fois plus élevé que celui de la bulle 2010 proportionnellement. Là. Ça a monté là, en points de façon incroyable. Donc, les gens, c'est sûr qu'ils sont suspicieux. Et il y en a qui me disent, « Ouais, mais Sylvain, Pierre-Yves, moi j'ai investi en immobilier, j'ai fait bien plus d'argent que les gens en bourse, j'ai bien fait. » Il y a une patente qu'on oublie souvent. Tu sais, quand tu t'en vas acheter un immeuble 350 000, tu empruntes 80 % de la valeur pour investir.
Ouais.
Donc, si ton immeuble fait 100 000 de gains, il y a 100 000 de gains, il y a 80 % du gain que c'est pas ton argent. C'est l'argent que tu as emprunté, tu as pris un risque. Là, tu te dis, oui, mais l'immobilier, il n'y a pas de risque. Il y en a toujours un petit. Ça prend ton temps, ça prend de l'entretien, ça prend de la gestion. Tandis que le placement en bourse, c'est passif. Mais si tu avais été, en 2009, emprunté 300 000 en bourse, je te le garantis que tu es millionnaire aujourd'hui. Mais c'est plus difficile parce qu'il n'y a aucune valeur tangible minimale garantie en bourse. Tandis qu'avec ta maison, tu te dis, il y a toujours un acheteur quelconque. Évidemment, tu peux être malchanceux. Là. Tu peux être sur un sol contaminé, il peut t'arriver plein de choses. Mais c'est ce qui fait la différence entre l'investisseur boursier et l'investisseur immobilier. L'investisseur boursier prend moins de risques. Il investit de l'argent souvent qu'il a. Tu sais que juste avant la crise financière, il y avait des prêts investissement qui s'offraient là, vraiment pas cher. Tu pouvais emprunter 50 000 à la banque, puis il disait, ben, tu peux aller investir en bourse avec ça. Le problème... c'est que si ça chutait en bourse, tu avais ce qu'on appelle des margin calls. On rappelait une partie du prêt pour compenser la baisse de valeur. Et là, les gens n'avaient pas l'argent, tu vois. Fait que, tu sais, des fois, ça a l'air beau emprunter pour investir, mais en bourse, c'est quand même quelque chose qui est plus stressant.
Mais ça dépend toujours du timing, du moment. Ouais. Regarde, tu parles de l'immobilier.
Question de chance.
L'immobilier, là, à Québec, là, moi, quand je suis rentré ici, là, il y a 15 ans, le premier condo que j'ai acheté, là, ben oui, j'ai fait de l'argent avec, là. Or, celui que j'ai acheté aujourd'hui, 7 ans après, il a baissé.
Ouais, mais Québec, c'est un drôle de marché immobilier, pour vrai.
Un sou, au contraire, j'en ai perdu. Fait que le timing, ça dépend.
Timing,
ça dépend à quel moment. Là, tu nous as fait des scénarios. C'est sûr que lui qui a parti en 2008 après la crise, là, il a peut-être fait x3, x4, mais moi, la crise de 2008, je l'ai vécu, là. J'en ai profité, mais j'ai aussi reculé d'à peu près 30% ou 40%
en 2008. Mais celui qui avait de l'argent pour réinvestir à ce moment-là, t'as raison.
Ben, timing, c'est toujours ça. Si on était capable de
t'sais. Mais qu'est-ce qui se passe à Québec avec l'immobilier? Pourquoi c'est différent?
Ils ont bâti trop de condos. D'abord, la ville, moi, je le reproche à la ville, mais ça, à Québec, c'est tabou, faut pas faire ça. Là. On est quelques-uns qui se bat contre...
Je
pense que la ville a bien trop donné de permis de condo pendant des années. Ils ont donné at large, puis toutes des condos pareils. Si au moins, c'était différent, toutes des petites bâtisses de 6 condos, parce qu'à 6 condos, tu mets pas...
Laisse-moi deviner. Quoi? Cuisine, laboratoire, salon, salle à manger intégrée, 2 chambres en arrière, puis une toilette.
Pas d'ascenseur. En plus,
pas
6 condos, le propriétaire, le constructeur n'a pas besoin de mettre d'ascenseur.
Non, dès que nous autres, c'est 3,5 étages, je sais pas trop. Tu sais, comme quand t'as 3 étages avec le sous-sol, le 4e, mettons, puis qu'il y a une petite mezzanine sous le toit, t'as pas besoin d'ascenseur.
Exact.
Et t'as pas besoin que la structure soit en béton non plus. Ça aussi, Sylvain, c'est important.
Exact. Ça, Québec, là, ils en ont bâti, mais dans des quartiers, là, c'est à la tonne. La ville a donné des permis, la ville a encaissé les taxes, la ville était contente parce que les taxes rentraient, tout était beau. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont acheté des produits qui, c'était clair que ça allait perdre de la valeur parce qu'il y en a trop des pareils, puis il y en a juste trop à la base, en plus trop des pareils. Fait que là, oublie ça. Okay. Ce qui se vendait à peu près 2,20, 2,35, aujourd'hui, il y en a qui ont de la misère à vendre 2, là. Ils vendent en bas de 200, là.
Hey, tu sais que moi, là, dans mon quartier, là, quartier qui est classé, tu sais, il y a de la pauvreté, il y a des gens aisés, il y a un peu un mélange, OK? C'est, même l'école au coin de ma rue est classée défavorisée. Tu sais, on a une maternelle 4 ans depuis longtemps, nous autres, parce que l'indice de pauvreté est relativement élevé dans le quartier, OK?
Ouais.
Parce que c'est un mélange. À 250 000, Sylvain,
oui.
Je pense que tu n'as pas un demi-sous-sol.
Et...
Non, pour vrai, un 4,5, c'est 350, 320. Là, t'as-tu le parking avec ça? C'est pas clair. Parce qu'ici, un parking intérieur, ça peut coûter 45 000. Imagine, un stationnement. Puis extérieur, là, tu peux payer 15, 20 à peu près. Puis un gros appartement de 1500 pieds carrés, là, t'es des 400, 450 000 piastres. C'est incroyable.
Ouais, c'est cher. En même temps, ceux qui ont acheté dans le bon temps doivent avoir aujourd'hui toute une plus-value. Et à Québec, actuellement, c'est pas pour rien que les gens louent, là. C'est fini, ils veulent plus acheter de condos. Les gens louent parce que ils en ont trop bâti, puis le marché s'est un petit peu effondré. Quoique là, ça fait une couple d'années qu'ils s'en bâtit moins. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça va virer de bord.
Mais c'est spécial, Québec, quand même, parce que pendant que tout le Québec voyait les valeurs augmenter, puis il y a des places même qui voulaient transformer des terres agricoles, il fallait les protéger pour pas bâtir, tu comprends? Vous autres, vous avez été victime d'un phénomène complètement inversé depuis quelques années. Je connais un gars, je le croisais dans un pub souvent, puis je dis, puis ton condo, tu vendu? Il y avait un condo à Québec, proche de la colline parlementaire, tu sais. Il dit non, j'ai baissé mon prix encore de 5 000, puis
Il y en a plein que soit qui vendent pas, soit qui baissent. Il y en a trop bâti. Écoute, pendant des années, là, on battait des records. Mais chaque fois, les gens doivent sa faute des constructeurs. Les constructeurs ont fait leur argent. Inquiétez-vous pas pour eux. Là. Ils ont calculé, ils ont fait le profit. La ville avait, en matière d'urbanisme, de vision, la ville aurait pu dire à un moment donné, OK, c'est trop, là. On va aller ailleurs. Là. En plus, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait exploser le trafic parce qu'ils ont donné des permis dans la couronne nord à tonnes. Puis là, ben, ça a créé de l'étalement urbain que la même ville, regardez comment c'est bizarre, la même ville au niveau politique, on entend le maire et d'autres, dénonce l'étalement urbain. Mais c'est qui donne les permis pour aller se bâtir dans ces endroits-là? Qui? C'est la ville!
En même temps, est-ce que dans la liberté, tu sais, Québec, la liberté, c'est fort. Est-ce que tu peux empêcher les gens d'aller se bâtir ailleurs?
Non.
Tu sais.
Non, mais tu peux quand même orienter le marché un peu. Sinon, on n'a plus besoin de ville. Là.
C'est mettre des règlements, tu sais, parce que c'est bien beau des 4,5, là. Mais ça répond pas à la réalité de toutes les familles. Un 4,5, 2 couples et un kid, c'est bien le fun en début, là. Après ça, il veut une maison. Puis après ça, un couple avec 3 enfants, il cherche un loyer, il n'y en a pas. Donc, il pourrait orienter les constructions variées. Avoir du 6,5, du 5,5, du 4,5, du 3,5, mais... Tu sais, le fameux 4,5, nous autres, à Montréal, on l'appelle le 4,5 Samcon, okay? Parce que c'est une grande entreprise à Montréal, je les vise pas personnellement, là. Mais, tu sais, eux autres, ils ont un processus bien simple, c'est pas compliqué. Ils sont tellement organisés, ils sont tellement tous semblables, les condos, que tu rentres, puis là, le gars de plancher est habitué de poser le même plancher, dans le même modèle, la même cuisine, fait que ça va vite, là. T'as tous les comptoirs de la même dimension, les mêmes planchers de la même dimension à peu près. Donc, tu optimises ton processus, puis dans ta compagnie, t'as des poseurs de plancher, des poseurs de cuisine, des poseurs de céramique, puis ils font toujours la même job. Donc, imagine comment ils économisent dans l'économie d'échelle. Mais ça fait des condos, tu sais, à pas très grande différenciation. T'en visites 15, là, puis t'as l'impression d'être rentré 15 fois à la même adresse.
Je comprends. Tu vas me parler un peu de l'épargne forcée. Selon toi, ce n'est pas une solution.
Tu vois, Sylvain, je suis sûr que je te surprends ce matin.
Ben oui, me semble que c'est ton genre, ça, l'épargne forcée. Hein. Prenez-vous un REER, prenez-vous un REER, prenez-vous un CELI, puis go.
Moi, je suis pour l'épargne, mais pas l'épargne forcée. Tu sais, le régime des rentes du Québec, c'est déjà d'épargne forcée. Hein. On va prendre la moitié va être prise sur les charges de l'employeur, puis la moitié sur ta paye. Donc, 10,80% au total de ta paye jusqu'à 57 400 qui est pris pour ton régime de retraite du gouvernement. Alors, les gens disent, on devrait tout augmenter ça pour garantir la retraite avec le régime des rentes du Québec. Je dis non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'espérance de vie. Si tu es atteint de fibrose kystique, de cancer 3 fois, que dans ta famille, tout le monde meurt d'une crise cardiaque à 56 ans, pourquoi je te forcerais à épargner autant que l'autre qui a une espérance de vie de 90?
Ouais.
L'autre point, la fraude fiscale. La personne qui fraude est déjà favorisée en trichant. Si tu augmentes le facteur d'obligation de retenue à la source, tu favorises le fraudeur fiscal parce qu'il y a plus d'opportunités d'investissement, lui, parce qu'il y a de l'argent disponible. Et ça amène justement l'autre point de dire la liberté d'investissement. Tu as le droit d'investir où tu veux dans la vie. Déjà que le RRQ me force à investir dans le régime des rentes du Québec, donc par retraite Québec, j'ai tout le droit avec ce qui me reste d'investir si je veux dans l'immobilier, dans un chalet, dans un bateau ou dans des bons restaurants si je veux. C'est mon choix, c'est ma liberté. Et là, l'épargne forcée, ça favorise les riches. Et là, tu vas dire, qu'est-ce que c'est ça? Je t'explique pourquoi. Le plus aisé, mettons que tu gagnes 300 000 par année. Même si on te forçait à mettre 10 % de ton premier 57 000 de côté, ça t'influence pas autant sur ton budget mensuel que la personne qui gagne 57 000 et moins. Et donc, la personne qui gagne 57 000 et moins, si t'as forcé à avoir un taux d'épargne de 20 % sur sa paye, tu enlèverais de la marge de manœuvre. Donc, tu enlèverais la chance d'aller investir en immobilier ou de prendre un risque dans une entreprise ou de tout miser sur les pogo balls.
Alors, je comprends qu'on ait mieux se garder une marge de manœuvre puis de la liberté, mais tu sais que c'est les gens qui font ça, ils vont te répondre, si je fais pas ça, je le ferai pas. L'épargne forcée, ça m'aide. Moi, c'est temps, ça part par mois dans mon REER. Si je l'ai dans les mains, je vais le dépenser.
Mais je vais faire un parallèle avec la bouffe, Sylvain.
Ouais.
Mettons qu'on fasse tout le monde à manger des carottes, pas de poutine puis pas boire de bière. Est-ce que ça serait une belle vie?
Non.
Je sais que c'était peut-être un sophisme, mon parallèle, mais dire « j'aime mieux l'éducation alimentaire que forcer l'alimentaire ». Mais c'est la même chose.
Mieux vaut de l'éducation financière que de l'épargne forcée.
Par contre, ton voisin que lui a épargné toute sa vie puis que toi, t'épargnes pas, mettons. C'est sûr que quand tu vas arriver dans ton CHSLD à la fin de tes jours puis tes soins de santé qui coûtent cher puis les routes puis tout ça, c'est juste la personne qui a épargné qui va y payer. Et ça, c'est le côté obscur. On dit « je fais mes choix, c'est mon affaire, je suis libre, c'est vrai ». Mais quand tu fais le choix de vivre à la semaine, quand tu as les moyens, je parle pas des gens qui ont pas les moyens, mais ceux qui ont les moyens, c'est que tu fais le choix de faire payer ton voisin à 60, 65, 70 ans parce que toi, tu as décidé que tu contribuerais pas, que ce serait l'épargne collective qui te ferait vivre par des CHSLD, par des HLM. Ouais. Il y a ça aussi, tu sais.
Merci, faut épargner. On se reparle demain, 7h36 au FM 93.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsberg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsberg Gingras. GingsbergGingras.com/dette